Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Je sais, vous êtes un peu déprimé, broyé du noir, aurait su dire. Parce que je suis plus maître de ce que je fais. Tout se fait sans moi. Je passe mon temps à signer des chèques et c'est tout. Le président lui dit, il arrive un moment où tout chef est prisonnier de ce qu'il est et de son œuvre. Moi aussi, je suis prisonnier de ce que je suis. La plupart des choses, ce n'est pas moi qui les ai décidées. Bandit, plus il échappe à son chef, Maurice lui dit, et si le groupe a pris une mauvaise direction, il faut l'aider à aller dans la bonne. Mais ce n'est pas facile, car un seul homme ne peut pas empêcher tout un groupe de faire ce qu'il ne veut pas faire. Maurice lui demande, il ne leur reste plus qu'à partir. S'ils font une politique contraire à nos idées. Non, on doit toujours rester à son poste, car il y a toujours quelque chose à sauver. Pour ce qui est de votre corps, je ne vois pas ce qui vous déplaît dans ce qui a été fait dans votre groupe. Ils mettent en pratique ce qui a été prévu. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça a été prévu d'espionner le président et sa famille, de mettre même des espions chez lui? Marc lui dit, non, mais tout homme public, hélas, a ses ennuis. Vous êtes un homme public. Maurice lui dit, oui, mais j'aimerais être un homme libre. Et peut-on peut-être être plus humain pour faire notre projet? Marc lui dit, plus humain? Mais il y a tellement d'humains que ce que nous faisons, ça ne se voit pas. Ou si peu, quelques personnes en plus ou en moins, sur des milliards, est-ce que ça se voit? Du point de vue humain, monsieur le président, Marc lui dit, vous n'êtes peut-être pas assez fort de caractère pour faire ce que l'on vous demande. Et qu'est-ce qu'on me demande? De nous aider pour faire une terre propre, où il faut, où il fait bon vivre, de la nettoyer de tous ces parasites qui empêchent l'humanité d'aller de l'avant. Vous êtes un de nos piliers pour réaliser ça, comme Pontoise, Juntou, Diap, et après vous. Ce n'est pas fini, il y en aura un autre. Notre but, c'est de gagner la guerre contre la barbarie. C'est pour que le progrès, la science, règne sur l'humanité, pour vivre dans un monde parfait. C'est la recherche de l'absolu. Et pour y arriver, il nous faut des hommes forts, qui soient prêts à tout, même à sacrifier leur idéologie, leur famille, leur vie, quoi. Maurice lui dit, c'est pour cela qu'on me demande mon fils. Marc lui dit, parce que votre fils a un rôle primordial pour l'avenir. L'humanité a besoin de lui. Pourquoi? Peut-être est-ce qu'il est vous, parce qu'il est votre héritier. Je ne sais même pas moi-même. Je me fais peut-être des idées. On demande votre fils parce qu'il est votre fils, voilà tout. Alors continuez votre travail. Maurice lui dit, je ne sais pas, je vais réfléchir. Vous ne pouvez pas arrêter, donner votre démission comme ça. Puis Maurice se dit, j'ai fait un pacte avec le diable. Je vais laisser tomber tout ça. Il décide de convoquer le conseil d'administration de toutes ces sociétés. Dans le conseil d'administration, il y a M. Dutour Henri, qui est PDG Pontois. Maurice lui dit, les enfants ne s'intéressent plus à ce genre de choses. Le monde a changé. Et il change, pas grand bien. Toi, ça va? Gilbert lui dit, oui pour le moment, mais... Tu sais, j'ai des difficultés à m'adapter à tout ça. C'est comme moi. J'ai bien envie de tout laisser tomber et de vivre dans un endroit tranquille. Hubert lui dit, eh bien c'est le papa. Maurice soupire et lui dit, c'est simple. On dépend de tant de gens. Voilà. Je voulais te demander si tu voulais prendre ma succession. Hubert lui dit, tu sais bien que je ne veux pas. Eh bien, je ne peux pas prendre ma retraite. Et pourquoi? Tu donnes ta démission et voilà. Non, parce que si tu refuses de prendre ma place, ils refuseront ma démission. Je la prends tout de même. Si je la prends, nous prendrons des sanctions très graves contre nous. Quelles sanctions? Maurice lui dit, je ne peux pas te le dire, parce qu'elle nous écoute sûrement. Qui? Comment? Ils sont de partout, tu sais, même chez nous. Dis, va à la police? Ils sont de leur côté. Non. Parce que tu ne le veux pas, je suis obligé de rester PDG. Pourquoi faire? Ça en servira à quoi que tu le restes? Maurice lui dit, parce qu'ils en ont décidé ainsi, et que si je ne le fais pas, il arrivera des tas de choses, ils seront en danger. On te fait chanter? Oui. Qui? Je ne le sais pas. Les Américains? Non. Quelque chose de gros, une espèce de mafia sûrement, qui s'est infiltrée dans notre groupe et que l'on ne peut pas s'en débarrasser. Une pieuvre. Gilbert lui dit, faire rien, attendre jusqu'à ce qu'il s'arrête de s'occuper de nous, jusqu'à ce qu'on arrive à se défaire d'eux. Donc je reste PDG. Allons prendre un verre. Le lendemain, il écrit au conseil d'administration pour leur dire qu'RSPDG ne donne pas sa démission. Les jours passent. Charlotte reçoit une lettre. Chère madame, nous sommes tous attachés à la prospérité de votre famille. Et c'est pour ça que nous souhaitons, pour votre bien, que votre mari fasse convenablement son travail dans son groupe. Et pour l'y aider, s'il le fait avec négligence, nous devons lui dire que sa femme l'a trompé et que son fils n'est pas son fils. Nous avons des preuves irréfutable tel que l'ADN. Alors faites en sorte à ce que votre mari fasse son travail comme il le faut. Cordialement vôtre. Une fois qu'elle a lu cette lettre, Charlotte panique. Pourtant, elle sait qu'elle n'a jamais trompé son mari. Mais elle sait que l'ADN n'est pas fiable à 100% et a peur qu'on lui présente des preuves. Elle a caché la lettre dans son secrétaire. N'ose pas raconter la missive à personne, même pas à son fils. Il risquerait de poser des questions et que leur répondre à part ma bonne foi. La honte la fait agir presque comme une coupable. Elle devrait se faire faire une analyse ADN pour la contre-expertise. Mais non, elle ne pense même pas à se défendre. Elle pense à cacher les accusations. Elle attend avec angoisse une autre lettre. Mais il n'y en a pas d'autre. Elle se dit que c'est peut-être une mauvaise blague. Mais tout de même, elle est de très mauvais goût. Soir, elle demande à son mari avec angoisse s'il a passé une bonne journée. Comme d'habitude, des chèques à signer, les hommes d'affaires s'occupent de tout. Elle lui dit, tant mieux, comme ça tu n'as plus de soucis. Il lui dit, je ne suis qu'une signature. Un jour, on va me faire signer mon arrêt de mort et je le ferai. Elle lui dit, mon Dieu, surtout pas. Il lui dit, ne panique pas, je plaisantais. Ils ont bien trop besoin de moi. pour me supprimer. Elle lui dit, tant mieux, reste indispensable. Les jours passent. Malgré qu'elle soit inquiète, elle doit continuer à vivre normalement et préparer ses soirées comme avant. Comme si rien n'était. Ses soirées ne l'intéressent plus. Elle se sent obligée de les faire à cause du prestige, de la place qu'à son mari dans la société. Elle invite toujours les mêmes personnes à quelque chose près. Durant la soirée, elle s'ennuie et se demande quelle est la personne qui a envoyé cette lettre. Car pour elle, ce doit être une de ses connaissances, une femme sûrement qui est jalouse d'elle et veut lui faire peur.
Bonsoir, mademoiselle.
Elle sait que les femmes sont méchantes entre elles.
Je vous ai présenté, mais nous demandions si...
Elle ne parle presque plus à ses amis. L'embarras froid.
Que vous nous soyez accompagnés.
Bon, alors vous permettez ?
Qui est-ce que tu vas connaître ?
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu.
À une de ces soirées,
et tout ce qu'il nous reste à faire.
Une femme, grande, mince,
quatrième du nom,
blonde, à chignon, d'un 35 ans, très élégante, habillée d'une robe du soir bleu roi, va vers elle. Elle lui dit, je viens me présenter à vous. Vous ne me connaissez pas. Je suis invitée toute seule. Charlotte la regarde bien et lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « Je suis Élise Daly, la couturière du Faubourg Saint-Germain. » Charlotte lui dit « Oh oui !»
Excuse-moi.
La célèbre couturière qui a habillé la famille royale pour le mariage du prince de Galles.
C'est parce que j'ai toujours beaucoup.
Et vous êtes venu quoi faire chez nous ? Elle lui dit. Je suis venu.
Vous ne dansez toujours pas ?
Non.
Vous, voir comment étaient habillées les femmes du monde.
Le est arrivé.
Dans leur soirée.
Je suis en crête de foie, un grand
ami. Je fais toutes les soirées pour voir et je regarde ce que portent ces dames. Pour les copier ? Non, surtout pas. Pour leur proposer des toilettes plus élégantes. Charlotte lui demande. Comment trouvez-vous ? Quels sont habillés mes invités ?
D'accord.
Elle lui dit. Pas trop chic, mais dans l'ensemble, ça peut aller. Elles ont fait un effort en venant chez vous. La plupart du temps, c'est moins bien. Là, je dis, et moi ? Élise la regarde et lui dit,
m'excuser auprès du professeur.
Cette verbe toute simple vous va ravir.
Qu'est-ce que je lui ai passé ? Ah bon ?
Mais comment il ne t'a rien dit?
Rien du tout.
Qu'est-ce que vous me proposez? Je peux vous choisir que des vous proposer que des choses du même genre. C'est votre style, gardez-le. Il vous va très bien. Merci. Et la tendance est à mode cette année. Il n'y a pas de tendance, mais de genre. Chacun a le sien. Et l'on essaye de... Dans... De trouver un style à des femmes qui ont des difficultés à en trouver un.
Ils ont un peu bu.
Le taillon revient en force et devient de plus en plus sexy. C'est la cause.
Je vais essayer de le calmer un peu.
Des femmes qui travaillent, ils se portent très collants, décolletés, jupes courtes et absolument nus dessous. C'est indispensable. Pourquoi? Eh bien, pour marquer les formes, un tailleur doit mouler la femme comme une robe de soirée. Il doit être une seconde peau. Et je choisis des tissus qui se moulent et collent au corps. Et très légers. Fini le tailleur rigide, épais, qui cachait le corps de la femme comme l'homme avec son costume. La femme doit... assumer sa féminité. Elle doit être fière de son corps, qui doit être pour elle le plus beau de la création. Elle doit se dire qu'elle est l'espèce la mieux civilisée, la perfection même.
Oui, tout
à fait.
J'ajoute que dans la baraque.
Si certaines vieilles du MLF vous entendaient, elles lui disent, elles ont dépassé ces femmes avec leurs idées. Elle voulait transformer les femmes en hommes et les hommes en femmes. Malheureusement, elles y sont presque arrivées. Parce que...
Il est fou ce mec. Ouais. Mais j'aime bien, moi.
Si on faisait un homme... comme nous, n'est-ce pas? Il serait si faible. Isabelle, tu dis. Pour ça, vous avez raison. Il faut toujours les soutenir pour qu'ils puissent faire quelque chose. Élise lui dit. Et tout en allant, ils ont l'air d'être plus faibles qu'eux, pour ne pas les complexer. Pour ne pas les complexer plus. Parce qu'ils ne feraient rien. Et elle continue à parler de la même chose. Cela fait du bien à Charlotte. Enfin une femme qui parle de choses intéressantes. Lorsque la soirée est finie, Charlotte lui demande « Si vous pouvez, nous pouvons, si vous voulez, nous pouvons nous revoir. » Élise lui dit « Oui, je veux bien. Nous avons des choses à nous dire. Je vous trouve très sympathique, Charlotte lui dit. Venez me voir, disons, l'après-midi. Parce que je ne travaille pas. Disons, ou si vous voulez, le soir, jeudi prochain, à 20h, ici, venez, jeudi à 20h, pour un repas tout simple, avec mon mari. Élise lui dit, merci, j'accepte, mais votre fils sera absent? Je lui dis, mon fils, il n'est pas chez nous. Il vit seul. Ah bon? Bien. Alors à jeudi. Elle la quitte. Dans leur chambre, après cette soirée éprouvante mais charmante grâce à Élise, Charlotte dit à son mari : j'ai invité Élise Daly jeudi à dîner. Qu'est-ce que c'est cette personne ? Elle lui répond : une célèbre couturier. Elle est très intelligente. Elle était à notre soirée. Et ça ne lui suffit pas ? Bien, qu'elle vienne jeudi. Elle lui dit, j'ai déjà fait. Il lui dit, c'est parfait, bonne nuit. Et il entre dans sa chambre. Jeudi, Charlotte prépare le repas pour sa nouvelle amie et dit avant que son mari ne parte de rentrer tôt. Nous avons une invitée ce soir.
Je tâcherai, c'est de me dépêcher pour signer mes chèques. Allez, au revoir.
Charlotte a préparé un souper simple, un repas simple plutôt, mais bien potage de cresson, canard à l'orange, des endives à la crème blanche, gratin de fromage et une charlotte. C'est un dîner, pas un souper. Le souper est plus élégant. On peut y mettre des huîtres en entrée, du champagne, et des choses plus fantaisie à manger. Boris est arrivé à 19h30, le temps de se changer, ils sont allés attendre Élise au salon. À 20h, la sonnerie de la porte a retenti. Le domestique va ouvrir. Bonjour mademoiselle, veuillez me suivre. Et il l'amène au salon. Il a frappé, il a fait rentrer. Élise est habillée d'une robe bordeaux. Charlotte va vers elle. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Charlotte lui dit, je vais vous présenter mon mari. Elle le mène à son mari. Maurice, je te présente Monsieur Élise. Madame Élise,
Billy. Enchanté.
Après avoir pris un petit apéritif, ils sont allés dans la salle à manger. Durant le repas, Charlotte dit à Maurice : Tu sais qu'Élise trouve les hommes trop guindés dans leurs costumes. Elle aimerait s'habiller, Maurice lui dit.
J'aime mieux paraître guindé qu'être efféminé. Je connais les hommes qui vont chez les grands couturiers et qui s'habillent d'une façon bizarre. On dirait des folles. Il y a même un grand couturier qui a inventé la robe unisexe. Tu me vois aller en robe à mon bureau.
Charlotte dit à Élise, ne vous fâchez pas pour ce que dit mon mari. Dans son entreprise, ils sont, disons, très collémontés. Élise lui dit, je sais, mais un peu de fantaisie ne fait pas de mal. Et votre fils est comme ça ?
Maurice lui dit, oui, il est comme moi, oui.
Elle lui demande, il a bien une vingtaine d'années, n'est-ce pas ?
Oui, bel âge, enfin, bel âge du point de vue physique, je veux dire.
Élise lui dit, vous n'aimez pas les jeunes gens ?
Jean-Luc Rougier lui dit, non, absolument pas, mais je parlais d'une façon générale. Pas mûr, comme les autres. 20 ans, c'est l'âge où on est le plus beau. Ceci ne veut pas dire non, pas du tout.
Élise lui dit, ma mère disait que c'est à 15 ans qu'on avait la plus belle peau et le corps le plus parfait.
Charlotte se dit qu'Élise va vite et qu'elle a des idées un peu larges. Elle pense que tout le monde est comme elle.
Et le repas se continue. On parle mâle, maison, château bien sûr, et enfant. Puis, ils sont allés au salon s'asseoir, continuer la discussion. La mère a sonné pour le café.
Vous en prendrez, vous aussi, n'est-ce pas ?
Oui, merci.
On frappe à la porte. Entrez !
Elle dit au domestique,
amenez le café, s'il vous plaît.
Et le domestique se retire. Elle dit à Élise,
c'est de plus en plus difficile d'avoir du bon café. Heureusement que mon mari a des relations. Autrement, nous boirions de la tisane.
Élise lui dit,
pour moi aussi, c'est très compliqué, mais j'ai la femme du ministre des banlieues qui vient faire les soldes chez moi.
Le ministre de la guerre aussi, mais c'est le seul ministre qui marche chez eux.
On frappe à la porte. Entrez !
Entre le domestique avec le chariot et le café. Il va vers eux. Et fait le service.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, plus enseigne, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.